BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. On vous accompagne en direct jusqu'à 18h. Tous les mouvements de marché, vous ne raterez rien de la fin de séance. Tous nos experts mobilisés et puis bien sûr les valeurs à ne pas rater sur le marché parisien. Alors que CAC 40 tente un petit sursaut. Après les difficultés de la semaine dernière, notamment le stress géopolitique, là il y a un peu moins, tout est relatif de stress géopolitique aujourd'hui pour entamer la semaine. On est en petite hausse sur le CAC et les valeurs à ne pas rater, on a Alstom notamment, une session aux États-Unis, on va en parler, puis Icade aussi, la foncière qui a publié ses résultats et pour le coup le chiffre d'affaires est salué par le marché. Puis tout à l'heure la bourse cash à partir de 15h40, alors que le segment des semi-conducteurs a beaucoup souffert ces derniers jours, eh bien ce secteur n'a sans doute pas dit son dernier mot, c'est peut-être même un point d'entrée pour les investisseurs. On en parlera à 15h40, la bourse cash. Mais d'abord, Wall Street est en train d'ouvrir. La cloche retentit sur les marchés américains, effectivement, direction New York. Notre vol Paris-New York, comme chaque jour. Il est 9h30 là-bas à New York. John Plassard avec nous. Bonjour John. Pour nous
Bonjour
faire
Guillaume.
Depuis l'intérieur de ces marchés américains, la tendance du jour et de ce début de semaine, John Plassard depuis les bureaux de Mirabeau. Elle est avec nous, la Tour Euronext, en direct. Aude Kersulec, bonjour Aude, ravi aussi de vous retrouver. Vous nous ferez vivre, Aude, justement, tous les mouvements de séance depuis la Tour Euronext, la salle de contrôle du CAC. Sur les indices européens, c'est assez mitigé, on est en petite hausse, et à Wall Street, c'est le grand réveil des marchés américains. Comment ça se passe ?
Oui, on a ouvert en hausse à Wall Street. Ouverture donc en hausse sur les trois indices. Le Dow Jones qui prend 0,3%, 38 107 points. Le S&P 0,4%, 4 987 points. Et le Nasdaq plus 0,6%, 15 384 points. C'est celui qui rebondit le plus parce que la tech avait quand même passé une très mauvaise semaine. La semaine passée, le Nasdaq avait perdu plus de 5%, le S&P plus de 3%, les deux indices les plus exposés à la tech. Le Dow Jones avait fait déterminer la semaine quasiment stable. Donc, semaine dernière difficile. Là, on tente de se reprendre. Les tensions géopolitiques se sont apaisées. L'escalade, en tout cas, semble être mise de côté. Les membres de la Fed qui se réunissent dans 8 jours n'ont plus le droit de parler, publiquement en tout cas. Et puis, on a aussi Nvidia qui avait baissé de 10% vendredi. Eh bien, on rebondit aujourd'hui. On reprend 2,2%, donc 2 minutes après l'ouverture. Les taux obligataires restent tout de même très élevé. C'était ce qui nous avait inquiété la semaine passée. On est encore à 4,64% pour le 10 ans américain. Ah oui. Et le 2 ans américain, il est toujours à l'orée des 5%, puisqu'on a seulement 2 points de base, à 4,98%.
Oui, toujours sous pression le marché obligataire américain, effectivement. Alors, cette semaine pourrait-elle changer la donne? Quels seront les grands rendez-vous? John, qu'est-ce que vous allez particulièrement surveiller à Wall Street?
Écoutez, il y a plein de données micro et macroéconomiques. Alors demain, on aura les PMI d'avril, c'est très important. On les attend aux États-Unis stables, manufacturés des services, voire en légère hausse. Mercredi, c'est les commandes de biens durables. Et jeudi, c'est la fameuse croissance américaine du premier trimestre. Elle est attendue à 2,5% contre 3,4% pour le dernier trimestre de l'année 2023. Mais on a Goldman Sachs qui vient de publier un papier il y a quelques minutes en nous disant qu'eux attendent 3,1% au lieu des 2,5% de consensus. Donc une croissance qui est toujours extrêmement vigoureuse. Et vendredi, c'est le point d'orgue. Qu'est-ce qui se passe? On attend l'inflation. Le PCE, c'est l'indicateur préféré de la Fed et on l'attend aussi en légère hausse. Sinon, on aura les sociétés. On en a rien plein toute cette semaine. On peut résumer. On aura Alphabet, Microsoft, Meta, Verizon, Visa, Tesla, la PepsiCo, Philip Morris, IBM, AT&T, Boeing et Exxon notamment. Donc très très grosse semaine au niveau macro et micro.
Oui, énorme semaine de publication effectivement aux États-Unis. Et vous avez cité certaines des GAFAM, certaines des 7 magnifiques qui effectivement vont à leur tour commencer Aude à publier leurs résultats. Elles seront sur le grill notamment cette semaine Microsoft ou encore parmi les 7 magnifiques Meta qui publieront donc dans les prochains jours Aude.
Oui, c'est vrai que ça va être une semaine décisive, pleine de résultats. Alors, vous avez relevé, John, que la banque UBS décide de s'alléger donc en termes de valeur donc de la tech. Les 7 magnifiques, les 6 magnifiques d'ailleurs, il faut les vendre.
Exactement. Alors, ce qui est très intéressant de noter, c'est que dans ce rapport d'UBS qui vient d'être publié ce matin, eh bien, UBS ne fait pas référence à la valorisation ou encore à l'intelligence artificielle pour vendre ces 6 valeurs. Ils excluent Tesla de ce groupe-là, mais ils parlent de base de comparaison et d'effondrement de la croissance des bénéfices. On a le rapport qui dit que la croissance des bénéfices par action d'une année à l'autre de ce groupe des 6 sera ramené d'un pic de 70% au quatrième trimestre à, tenez-vous bien, 42% au premier trimestre 2024. Donc, faire très attention ici. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que de plus en plus, on voit les valeurs défensives qui surperforment. On va voir cette semaine si ça va se poursuivre ou non.
Effectivement. Et puis, parmi les magnifiques, enfin magnifiques, est-elle encore magnifique? En tout cas, parmi les 10, 7 magnifiques, il y en a une qui va publier, qui sera particulièrement scrutée, c'est Tesla, demain soir, après la clôture de Wall Street, annoncera ses résultats. Tesla qui, en attendant cette publication, juste avant, nous annonce, John, de nouvelles baisses de prix sur ses véhicules.
Oui, c'est assez fou, Guillaume, parce qu'on sait que Tesla a déjà baissé le prix de la majeure partie de ses véhicules. Eh bien, ici, ils annoncent de nouvelles baisses en Chine, en Europe et aux États-Unis. Ils vont notamment baisser plusieurs modèles, notamment le modèle 3 remanié en Chine de 2 000 $. Sinon, vous avez le modèle Y, le modèle S, le modèle X. Faites votre choix. Qui vont voir leur prix aussi baisser. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que ce n'est pas seulement les véhicules électriques. Vous savez, Guillaume, qu'il y a aussi la conduite assistée, qui est une application produit Tesla. Eh bien, le fameux FSD va aussi voir son prix baisser. Donc, on imagine bien que face à la concurrence, face à la baisse des achats des véhicules électriques en Chine, eh bien, Tesla tente le tout pour le tout pour augmenter ses volumes avec évidemment des marges qui vont baisser.
Publication demain soir après la clôture donc de Tesla à New York. Tesla, le titre a perdu depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, plus de 40% effectivement. Wall Street donc qui ouvre dans le vert. Il est 9h37 à New York. Les indices sont en légère progression. Et du côté de la politique, on s'approche de la présidentielle. On est à moins de 200 jours. Moins de 200 jours. 199 jours désormais de cette présidentielle qui aura lieu le 5 novembre. Vous nous faites vivre la campagne électorale de l'intérieur chaque jour, John. Ouais, c'est votre promesse quotidienne dans USA Today. Alors c'est vrai que Donald Trump a vécu quand même un revers là, avec le vote effectivement de la Chambre des représentants pour le déblocage d'une nouvelle aide massive pour l'Ukraine. Et pour le camp de Donald Trump, c'est un revers. Mais il peut peut-être se consoler encore en regardant certains sondages, notamment, John, sa cote de popularité auprès des jeunes.
Oui, tout à fait. On sait que normalement, les jeunes votent plutôt démocrate et donc votent plutôt Joe Biden. On se souvient qu'en 2020, le vote des jeunes, il y avait eu un écart entre Joe Biden et Donald Trump de 24 points. Mais tenez-vous bien, cet écart entre Donald Trump et Joe Biden est en train de fondre comme neige au soleil. Je vous rappelle qu'il neige actuellement en ville, à Genève, en Suisse. Eh bien là, on est dans une situation où, selon le sondage de Reuters, eh bien, Joe Biden n'a plus que 3 points d'avance sur Donald Trump. Les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans préféraient un autre candidat ou ne sont pas réellement convaincus de l'âge de Joe Biden et aussi à son soutien à Israël. Donc, on dit de plus en plus aux États-Unis que potentiellement, faut prendre cette information avec des pincettes, eh bien, c'est les jeunes qui potentiellement pourraient faire gagner Donald Trump. Ça paraît assez fou, puisque, comme je le disais avant, en 2020, c'était eux qui notamment avaient réussi à faire, élire Joe Biden.
Effectivement, voilà, les démocrates sont-ils en train de perdre une partie du vote des jeunes, ne jamais vivre sur ses acquis, en tout cas, cette présidentielle que vous nous faites vivre au quotidien, la campagne électorale, qui rentrera vraiment dans le vif du sujet dans les toutes prochaines semaines, effectivement. Du côté des valeurs des entreprises, alors vous l'avez dit, John, beaucoup de publications à suivre cette semaine, ce sera une énorme semaine de publications à Wall Street, et d'ores et déjà des annonces, alors pas des annonces de résultats, mais pour le coup, des annonces de licenciement de la part de Nike aujourd'hui.
Oui, Nike, c'était un plan de restructuration déjà annoncé en février, mais là on en sait plus sur les coupes d'effectifs, moins de 740 salariés au siège historique de Nike. Alors pour le moment, l'action réagit peu, elle est toujours autour de 94 $, mais John, à quoi doit-on ces réductions d'effectifs ?
Eh bien, écoutez, Aude, la société tente le tout pour le tout pour réduire ses coûts après avoir fait état en mars d'une baisse de ses revenus pour le premier semestre de l'exercice fiscal 2024-2025. Il faut rappeler quand même que Nike emploie un petit peu plus de 83 000 personnes dans le monde. Donc, ce n'est pas énormément, 740. Mais on voit ici une société qui était en plein essor, en tout cas en termes d'engagement, qui commence à licencier. Donc, elle regarde sur ses coûts et notamment sur ses marges. Donc, regardez ça de très, très près. Regardez l'action Nike.
Effectivement. Et puis, une autre valeur que vous avez repéré à ne pas rater aujourd'hui, Lululemon sur le marché américain, John.
Oui, tout à fait. Et Lululemon, vous savez que vous aimez bien, je sais, Guillaume, oui. Et qui fait des habits pour le yoga, eh bien, a annoncé la fermeture de son centre de distribution dans l'État de Washington à la fin de l'année. Donc, un licenciement de 100 salariés. C'est un peu dans la même histoire que Nike. Le groupe cherche aussi à réduire ses coûts. Et notamment, on voit qu'il y a certains employés qui vont être déplacés dans la région de Los Angeles où il y a un autre grand centre de distribution. Mais on voit qu'ici, c'est la course face à l'inflation et à la baisse des marges.
Lululemon en hausse de 2% en ce moment. John Plassard, c'est USA Today, le marché américain au réveil. Merci John de nous accompagner chaque jour depuis les bureaux de Mirabeau. Aude Kersulek aussi nous accompagne depuis la tour Euronext. À tout à l'heure, Aude, pour le suivi de cette séance qui se passe bien. On a un début de semaine plutôt serein sur les marchés, ça change de la semaine dernière. Wall Street en hausse, plus 0,5 sur le S&P, plus 0,7 sur le Nasdaq. Et le CAC 40 en progression, lui aussi le CAC 40, il gagne en ce moment 0,15%. Alors vous avez sans doute des questions sur vos portefeuilles boursiers. Quelles valeurs privilégier? Lesquelles des valeurs que vous détenez devez-vous vendre? Ces questions que vous vous posez, on tente chaque jour d'y répondre, c'est dans Culture Bourse, 15h50 chaque après-midi. Vous nous envoyez vos questions par mail, bfmbourse@bfmbusiness.fr, ou encore en scannant, en flashant le QR code qui apparaît sur vos écrans et qui apparaîtra sur vos écrans tout au long de l'après-midi. N'hésitez pas, Culture Bourse à suivre donc dans quelques minutes. Mais d'abord, 15h42, c'est la Bourse Cash. Amandine Gérard nous rejoint. Bonjour Amandine.
Bonjour Guillaume.
Président de la financière de l'ARC. Vous voulez dire, Amandine, leurs quatre vérités au marché cet après-midi. Vous êtes sûr?
J'en suis sûr.
Voici votre message aux investisseurs, Amandine. Pour vous, le Blue Sky scénario reste inchangé sur les semi-conducteurs malgré leur plongeon des derniers jours. Ce message, vous l'assumez?
Ah, je l'assume totalement, Guillaume.
Alors que le secteur plonge des semi-conducteurs, vous dites le Blue Sky scénario reste inchangé sur le semi-conducteur. Franchement, vous êtes dans le déni ou dans l'aveuglement, Amandine?
Ni l'un ni l'autre, Guillaume. Non, mais comment on peut maintenir le fait que le Blue Sky scénario reste inchangé sur les semi-conducteurs? C'est parce qu'on est sur un secteur de cycle long. Et comment on l'évalue? On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de ChatGPT, mais au-delà de ça, en fait, comment cette révolution va transformer nos process. Quand je dis nos process, c'est intersectoriel et tout métier confondu. Et donc, pour ça, il va falloir investir. Vous savez qu'il y a deux types d'investissements, ce qu'on appelle les OPEX et les CAPEX, les investissements de maintenance et les investissements pour le développement. Et l'intelligence artificielle fait partie de ça. Qui en bénéficie en premier lieu? Les semi-conducteurs. Alors après, bien entendu, selon les secteurs, certaines sociétés vont en bénéficier plus que d'autres. Mais malgré les résultats décevants, entre guillemets, d'ASML ou de TSMC sur les carnets de commandes, ça ne change en rien le fait que les entreprises vont avoir besoin, sur le long terme, d'investir pour modéliser de nouveaux process du fait de l'intelligence artificielle.
Industriellement, on est d'accord, mais boursièrement parlant, la thématique, elle avait déjà énormément progressé. C'est l'une des thématiques, les semi-conducteurs, qui avait le plus porté la hausse des marchés, d'ailleurs, depuis quelques trimestres. Vous vous dites pas, là, qu'on était monté quand même sur peut-être quelques excès de valorisation et que, c'était peut-être pas une bulle, mais en tout cas, il est raisonnable de voir cette thématique d'investissement peut-être respirer et continuer de consolider.
Alors oui, toute consolidation, de toute façon, est raisonnable. Et le marché, de manière générale, est monté sans volatilité et en ligne droite depuis plusieurs mois. Donc, la consolidation qu'on a vue ces derniers jours, elle est profitable à l'ensemble des investisseurs. Concernant le secteur, effectivement, il n'y avait plus de différenciation sur ces dernières semaines. Et il est préférable, d'ailleurs les baisses sont quand même dissociées, on va dire, oui. Les corrections sont quand même dissociées, et là on reparle de multiples de valorisation, donc certaines sociétés ne sont pas très chères entre guillemets sectoriellement, alors qu'on a vu des ARM se valoriser plus de 90 fois les résultats, là la correction est clairement salvatrice.
Mais si bien. Ça va. ASML là en direct cet après-midi, encore en baisse, hein, moins 0,4.
Oui, oui. Bah après, il y a une prise de profit, je dirais, qui est aussi un effet de flux. Et comme je viens de le dire, une prise de profit. Donc, à partir du moment où vous avez une large plus-value, vous le savez, quand vous êtes investisseur gérant, vous pouvez couper votre position. Second point, on a ce qu'on appelle les fonds citiers, qui sont une typologie de hedge funds, qui sont très puissants en termes de flux et d'investissement sur les marchés américains. Et eux fonctionnent avec des stop-loss, hein, donc des niveaux de marché. Et au fur et à mesure de ces niveaux de marché, ils se désexposent aux actions. Donc, clairement, c'est ce qu'on a vu lors de la séance de vendredi. Ça a tapé des niveaux de marché pour les citiers où ils ont été vendeurs de positions sur les marchés. C'est ce qui a déclenché ce flux-là. Et c'est pour ça que les rebonds sont tout aussi violents maintenant également. Donc, bien entendu, on ne vend jamais au plus haut, on n'achète jamais au plus bas. Donc, charge à nous, en tant que gérants, d'essayer quelque part de manager plus ce sujet de flux que le sujet de valorisation.
Mais dans la thématique semi-conducteur, il y a des titres dont vous vous dites, oh là, il a suffisamment ce titre décroché, là, on est carrément sur un point d'entrée. On peut citer comme ça des valeurs dont vous vous dites, évidemment, pour ces valeurs, le blue sky scénario reste à venir.
Alors j'ai envie de vous dire, il y a des valeurs pour lesquelles les valorisations n'ont même pas atteint les niveaux pour les vendre, et je pense notamment à STM et à Infineon en Europe qui sont très en retard. Mais effectivement, je vous citais ARM qui a perdu 40% je pense depuis les plus hauts, oui. Je ne sais pas exactement, mais donc on n'en rachète pas tout de suite, mais si ça se poursuit, oui, là on rentrera sur des niveaux où potentiellement on retournera sur le titre.
Cette thématique semi-conducteur dont on parlera bien évidemment, et puis on voit que la thématique intelligence artificielle aussi, alors se dégonfle, c'est un grand mot, mais consolide un petit peu, repart à la baisse. Nvidia notamment, Nvidia qui avait tant progressé, est entrée en bear market, on en parlera tout à l'heure avec nos experts, rien que sur la séance de vendredi, Nvidia a perdu plus de 200 milliards de dollars de capitalisation. Ça peut aller très vite hein, quand on atteint des niveaux de valorisation et plus de 2000 milliards de dollars de capi pour Nvidia, ça peut aller très vite hein. Dès qu'on a une correction, effectivement ça amène à des chiffres spectaculaires. Aude nous appelle, Aude Kersulec, 15h47 depuis la Tour Euronext, la séance en direct. Aude, le CAC 40 entame la semaine du bon pied, on est dans le vert cet après-midi.
Oui, c'est vrai, on remonte de 0,2% à 8039 points. Alors la semaine dernière, quand même, c'est pas si mal passé pour le CAC 40. C'est même un des seuls indices à avoir allé flotter au-dessus de zéro en termes de performance hebdomadaire, parce que ça s'est mal passé hein, du côté de Wall Street à cause de la flambée des taux obligataires. Et c'est notamment la tech hein, qui en payait un prix très cher, parce qu'on perdait 5,5% sur le Nasdaq, moins 3% sur le S&P. C'était aussi moins 0,5% sur le DAX à Francfort. Donc finalement, avec nos 0%, plus 0,2% même de progression sur la semaine pour le CAC 40, on s'en est vraiment pas si mal sorti. Et puis ce matin ça repart, ce midi comme les autres indices européens d'ailleurs, on est un petit peu à la traîne alors parce que le DAX prend 0,7% et l'Eurostoxx 0,4%, donc plus 0,2% à 8039 points notre CAC parisien.
Oui. On a Alstom, alors c'est plus dans le CAC Alstom, mais ce titre Alstom, il est en hausse après l'annonce d'une cession de son activité signalisation ferroviaire conventionnelle. Notamment, Alstom gagne 2,3% d'une cession en Amérique du Nord. On en parlera avec Bertrand Lamiel, il sera avec nous dans quelques minutes. Et on vous interroge aussi sur nos réseaux sociaux, notre fil LinkedIn, BFM Bourse, notre fil X également. Vous pouvez d'ailleurs vous y abonner. Notre question du jour concerne les publications. Elles seront très nombreuses cette semaine, les publications. Rien que sur le CAC, cette semaine, 21 entreprises vont annoncer leur chiffre d'affaires ou leurs résultats. Ça fait beaucoup en à peine une semaine. Et c'est la question qu'on vous pose. Et vous, arriverez-vous à tout suivre ? La semaine sera dense, elle sera riche. Cette question, on la posera aussi aux différents professionnels qui vont nous accompagner. Vous êtes pour l'instant plus de 70% à nous dire « Non, on n'arrivera pas à tout suivre. 21 publications rien que sur le CAC. » C'est énorme. Amandine, vous êtes une professionnelle de marché. Franchement, 21 publications, là, comme ça, concentrées en quelques jours. Sur 3 jours. De mardi à jeudi, on aura quasiment les 21 publications. C'est pas humain. Vous arriverez à tout suivre, même si vous êtes professionnel. Est-ce que, pourriez nous dire la vérité, à savoir que c'est impossible?
Non, nous n'arriverons pas à tout étudier. Nous sommes obligés et contraints de tout regarder. Donc effectivement, nous sommes lève-tôt, on va dire, en cette période de publication. Après, il y a des publications auxquelles vous ne pouvez pas échapper, que vous les ayez ou non au portefeuille. C'est le cas d'LVMH qui a publié la semaine dernière et qui a donné le ton. Cette semaine, nous avons Hermès. Après, de notre côté, nous avons un fonds santé, donc Sanofi publie parmi le CAC, mais on a également AstraZeneca. Donc ça, ce sont les publications prioritaires pour nous. On parlait des semi-conducteurs, il y a également ST Microélectronique cette semaine. Donc effectivement, on va regarder les publications un peu systémiques, entre guillemets. Donc Hermès cette semaine, et puis la semaine suivante, on aura les banques. Et puis après, on se concentre sur ce qu'on a en portefeuille.
Vous pensez que cette saison de résultats, de publications, permettra au marché de voir les valorisations un peu moins s'écarter les unes des autres? Parce que depuis plusieurs trimestres, même 2-3 ans, on a le luxe comme ça qui domine tout le monde. La tech, évidemment, aussi. Puis derrière, la valorisation du reste du marché très très en retard. Est-ce que vous pensez que cette saison de publication permettra à cet élastique de peut-être moins s'écarter, voire se resserrer un petit peu?
C'est difficile à dire. Pourquoi il y a ces écarts de valorisation? C'est parce que je vous rappelle qu'on valorise les sociétés sur des croissances de bénéfices futures. Et donc, c'est les secteurs que vous avez évoqués qui se paient cher, mais ils se paient cher pour des bonnes raisons, puisqu'on anticipe de grosses croissances de bénéfices futures. Cette semaine, on attend Microsoft ou encore Meta. Dans le cas de Microsoft, on attend sur la croissance de Azure, donc l'offre cloud, 28% sur le premier trimestre. Or, on pourrait penser que depuis le Covid, la croissance a été très forte, exponentielle, et donc on arrive sur des effets de base qui sont difficiles. Donc ces prix, ils ont une valeur par rapport à la croissance des bénéfices futurs. La question est plutôt de savoir si finalement l'écart de valorisation entre les grandes capitalisations et les petites et moyennes capitalisations va arrêter de se creuser. Puisque là, on attend un rebond de la croissance des bénéfices des petites et moyennes capitalisations.
Oui, et vous espérez que ça se traduira aussi dans les cours de bourse et la réaction boursière vis-à-vis des petites et moyennes valeurs qui, alors depuis un mois et demi, se réveillent un peu. On va voir là, à l'occasion des publications, si ça se confirme.
Oui, c'est un bon test pour savoir si les investisseurs reviennent véritablement sur le segment, ce qui n'est pas encore totalement le cas. On a des sociétés qui en bénéficient, je pense notamment à Ipsos, même si elle a été sanctionnée vendredi sur sa publication, mais on a un très beau parcours. On a Vallourec aussi dans le cadre des restructurations qui a très bien performé ces derniers mois, mais ce n'est pas relatif à l'ensemble du segment des petites et moyennes capitalisations.
Il y a une valeur dont vous vous dites avant les publications, celle-ci, je pense qu'elle va agréablement surprendre le marché et la réaction boursière pourrait être très favorable. Il y en a une comme ça qui vous vient à l'esprit ou pas?
De moins en moins, parce qu'en fait, le marché ne réagit pas forcément sur des bonnes nouvelles. Et on l'a vu encore une fois avec LVMH, puisque finalement, on peut se dire 3% de croissance organique pour LVMH, c'est faible. Mais en fait, les attentes des analystes ce trimestre sont très prudentes. Donc potentiellement, c'est juste le fait de moins décevoir qui fera qu'on va avoir des très bonnes surprises. Après, il est vrai qu'on ne voit pas spécialement de déception sur Hermès. Alors, elle est très détenue. Est-ce qu'elle montera beaucoup? Et là, on pourrait avoir une bonne surprise, c'est si Sanofi arrête de décevoir également.
Oui, Sanofi. Et puis, à l'inverse, les sanctions, en tout cas les déceptions, ces dernières saisons de publication, dès qu'il y avait une déception, elle était lourdement, parfois incroyablement lourdement sanctionnée. Vous pensez que les niveaux de marché aujourd'hui, les marchés ont progressé encore depuis la dernière saison de résultats, les marchés aujourd'hui seront sans doute encore prompts à sanctionner aussi lourdement la moindre déception que lors des saisons précédentes de publication?
On parlait de ST Microelectronics. Typiquement, le marché, les investisseurs attendent un avertissement sur résultats qui ne vient pas réellement. Donc s'il venait, ça purgerait les attentes négatives et potentiellement permettrait un rebond de la valeur. Donc là aussi, c'est à voir et c'est un sujet de stock picker finalement.
Amandine Gérard, la financière de l'Arc. Merci beaucoup Amandine de nous avoir accompagnés.
Merci Guillaume.
À l'orée donc de cette saison de publication qui va vraiment accélérer cette semaine. Dans quelques minutes, l'écho du monde, ce sera à 16h15 et la France sur le grill. Deux agences de notation passeront en revue la note française. Peut-être un abaissement de la note française, on verra. En tout cas, Fitch et Moody's sortiront du bois, ce sera vendredi. Est-ce que quelque part, il ne faudrait pas souhaiter une dégradation de la note française pour réveiller l'esprit de responsabilité? On posera la question à notre économiste. Irina Topasseri pour AXA-IM, elle sera avec nous donc à 16h15. Et ensuite, bien sûr, le replay est disponible sur notre application BFM Business.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Parce qu'investir en bourse, oui, ça se cultive. Culture Bourse, vos questions sur vos investissements trouvent ici leurs réponses. Julie Cohen-Horton et ses experts. Bonjour Julie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Parce que oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire. Vous avez des questions pour structurer vos portefeuilles d'investissement. Ça tombe très bien parce que nous, on a les experts pour vous aider à y voir plus clair. Et vous le savez désormais, bien, vous avez deux options. Vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision.
Il est beau ce QR code.
Magnifique.
Il est très beau. Il faut nous écouter, bien sûr, à la radio, mais surtout nous regarder à la télévision en replay, puis nous écouter aussi en podcast si vous n'avez pas l'occasion. Alors justement, des réponses aux questions, on en a plein, et les questions aussi, elles sont très nombreuses, de plus en plus. On vous remercie d'ailleurs de nous faire de plus en plus nombreux confiance. Cette question notamment concernant les matières premières de plusieurs de nos auditeurs aujourd'hui, Julie.
Effectivement, et c'est Raymond et Paul qui nous ont écrit. Ils souhaitent avoir un retour sur la stratégie à mettre en place avec Total Energy et Eramet. Ça, c'est pour Paul, Total Energy pour Raymond. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces deux titres? Eh bien, on va tout savoir avec Bertrand Lamiel pour Ports en Part Gestion. Bonjour Bertrand.
Bonjour Julie.
Bah alors Bertrand, quel regard portez sur ces titres qui publient cette semaine? Donc deux publications qui interviennent dans un contexte de hausse des cours et même sur des records sur les matières premières.
Oui, effectivement, nous, on pense que c'est toujours bon d'avoir dans ce contexte des matières premières dans le portefeuille. Ce ne sera pas forcément, d'ailleurs, les titres là. Sur Total, oui, effectivement, mais là, à court terme, elle a pas mal rebondi. Donc, est-ce qu'on a encore beaucoup d'upside? Ce n'est pas évident à dire. Et sur Eramet, on va plutôt être à l'écart. Les dossiers qu'on a plutôt eu tendance à mettre en avant, c'est un dossier... Alors, quand je dis matière première, c'est au sens large du terme. On n'est pas sur un extracteur de matière première, mais c'est GTT, gaz et technique transport. Donc sur les cuves de méthanier, globalement, là, les résultats ont été postés. Nous, on trouve que c'est de bon augure. Le changement dans le management, là aussi, c'est plutôt pas mal parce que ça va permettre de probablement mettre en avant la division qui sera un moteur de croissance futur avec son ancien dirigeant qui va devenir patron de GTT. Donc, tout ça nous paraît de bon augure et le fait qu'elle baisse aujourd'hui, quelque part, peut donner des opportunités d'investissement pour les investisseurs. Et puis, il y a un autre dossier qui va être sur le cuivre qui s'appelle NKT, qui est une valeur danoise. Qui va câbler l'Europe, le monde. Parce qu'en fait, le principe de mettre des centrales photovoltaïques ou des éoliennes aux endroits où soit il y a du soleil, soit il y a du vent, ne sont pas forcément les endroits où on va consommer cette électricité. Donc ça va nécessiter de densifier le réseau de distribution. Et donc NKT est un acteur qui va faire ce travail-là. Et ça nous paraît un dossier dans la thématique énergie qui nous paraît bien orienté en ce moment, avec plutôt des bonnes surprises dernièrement sur les publications. Et donc, voilà, si on veut traiter du thème de l'énergie, les dossiers qu'on a tendance à mettre en avant dans nos fonds, nos portefeuilles.
Et Bertrand, vous nous accompagnez dans un instant. On va continuer de parler justement des valeurs à fort potentiel, les valeurs qui marquent l'actualité du jour, notamment Alstom. Restez bien en ligne avec nous, Bertrand. On vous retrouve dans quelques minutes. Parce que Culture Bourse, bien sûr, ce sont nos réponses à vos questions, mais c'est aussi de la pédagogie financière au sens large. Après l'introduction en bourse de Planisware réussie la semaine dernière, vous nous interrogez sur l'intérêt des IPO. On va en profiter donc pour faire un point sur l'intérêt pour les entreprises de réaliser une IPO, Julie.
Et ce point, on l'effectue avec Guillaume Simonin, le fondateur de Wizify.fr. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous.
Bonjour Julie, bonjour Guillaume.
Hello. Alors, peut-être Guillaume, pour commencer, avant de se pencher sur l'intérêt d'une IPO, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement, concrètement, efficacement, ce qu'est une IPO?
Bien sûr. Avant que l'action d'une entreprise elle soit cotée en bourse et donc échangeable sur les marchés financiers, elle doit d'abord s'introduire en bourse. C'est la fameuse IPO, Initial Public Offering en anglais, introduction en bourse en français, car la bourse est en fait deux marchés. Un marché qu'on appelle le marché primaire et un marché qui est le secondaire, qui est la bourse, celui dont on entend le plus parler. Le marché primaire, c'est le marché des nouvelles actions. C'est le marché du neuf, si vous voulez. C'est ici qu'une entreprise s'introduit en bourse. Les capitaux levés sur le marché primaire et donc lors de l'IPO vont directement dans les poches de l'entreprise. En revanche, sur le marché secondaire, celui dont on entend le plus parler et où on voit les marchés fluctuer, le prix des marchés fluctuer, le prix des actions sous-jacentes fluctuer, c'est le marché de l'occasion, le marché secondaire. Les titres financiers sont déjà émis, sont librement échangeables entre acheteurs et vendeurs. Ils sont cotés. Le prix évolue en fonction de l'offre et de la demande. Et ici, les flux financiers vont directement dans la poche de l'investisseur et non plus dans la poche de l'entreprise.
Donc ça, c'est pour la définition, mais très rapidement, c'est quoi l'intérêt pour une société d'effectuer son IPO? Est-ce que c'est vraiment tout bénef?
Alors, l'intérêt principal, c'est se financer. Historiquement, la bourse, c'est une place pour se financer. Les entreprises vont lever des capitaux en faisant une offre publique à l'épargne. Ils vont donc échanger du capital contre de l'épargne pour financer leur développement. Mais ce n'est pas que ça. Les IPO aussi permettent aux entreprises de gagner en visibilité, en notoriété, mettre en avant son entreprise. Et également un autre argument, et non des moindres, celui de la liquidité pour les investisseurs existants. Les titres sont facilement échangeables en bourse, ce qui sera beaucoup plus facile pour les investisseurs existants d'échanger leurs actions. Les contraintes qui viennent avec l'IPO, et elles sont importantes à considérer pour l'entreprise, c'est notamment l'obligation de rendre publiques les informations financières, qui peut être assez lourd pour une petite entreprise. Et quand je suis coté en bourse, mon entreprise va vivre avec la météo des marchés financiers, va y avoir une corrélation directe avec le contexte macroéconomique. Même si les fondamentaux de mon entreprise se portent bien, le cours de mon action peut évoluer au gré du contexte, de la géopolitique et de la conjoncture.
Guillaume Simonin, merci beaucoup Guillaume de nous avoir accompagnés. Et Julie, Culture Bourse, merci, c'est la sirène, là on est un peu en retard. Salut Julie, merci beaucoup, c'est de ma faute, hein. Honnêtement c'est de ma faute. Julie Cohen-Herton et tous ses experts, chaque jour 15h50, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions, vous le voyez, on y répond à travers ce QR code qui va continuer d'apparaître tout au long de l'après-midi ou encore par mail. Dans un instant, retour à la séance du jour, Aude Kersulek sera avec nous, puis la Tour Euronext, on a le sourire sur les marchés aujourd'hui. Bon début de semaine, que ce soit en Europe ou à New York. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.